Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue aux amateurs de sport week-end édition du samedi 14 avril. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien parce que demain, vous allez trouver que la météo est pas le fun. Mais nous, on est là jusqu'à 18h30, évidemment, pour vous tenir au courant de ce qui se passe présentement dans le monde du sport. Premièrement, série de la Coupe Stanley présentement, il y a un match en cours. En fait, deux matchs qui sont en cours. Après une période de jeu, c'est l'égalité 1-1 entre le Lightning de Tampa Bay et les Devils New Jersey. C'est Nico Hischier qui a marqué pour les Devils. Braden Point pour le Lightning de Tampa Bay. L'Avalanche du Colorado, elle est devant 1-0 sur les Prédateurs de Nashville qui menaient leur série 1-0. Un but pour Gabriel Bourque du côté de l'Avalanche du Colorado. Samuel Girard n'est pas de la formation de l'Avalanche. On parle de blessure au bas du corps dans le cas de Samuel Girard. Ce soir, Toronto qui va affronter Boston qui mène la série 1-1. Et les Ducks d'Anaheim vont affronter à 22h30 les Sharks de San Jose qui mènent cette série 1-1. Aujourd'hui, avec nous, il y aura Benoît Brunet qui viendra nous en parler. Vincent Détouche va revenir sur cette défaite de l'Impact 3-1 face aux Red Bull de New York. On parlera également à l'entraîneur-chef des Carabins de l'Université de Montréal, Danny Machocha, qui est présentement en visite du côté des Hurricanes de l'Université de Miami, de la NCAA. Gros budget, beaucoup d'infrastructures là-bas. On va aller voir ce que le coach Machocha peut apprendre en allant faire un tour du côté de l'Université de Miami. Sébastien Gauthier viendra nous parler du prochain adversaire de David Lemieux. On parlera de baseball également. Liste des blessés pour Josh Donaldson du côté des Blue Jays de Toronto. Demain, les Voltigeurs de Drummondville vont faire face à l'élimination. Stéphane Leroux viendra nous en parler. Mais pour l'instant, Philippe Quentin est avec nous. Salut Philippe!
Salut Jérémy!
Bon, dans un premier temps, Philippe, je lisais ton article de ce matin au sujet de ce vent de fraîcheur, ce renouveau potentiel qui est supposé d'arriver du côté du Canadien de Montréal. Et un peu plus loin, tu fais état beaucoup de Joël Bouchard. Joël Bouchard, on le sait, avec l'Armada qui iront en demi-finale du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ce gars-là a une expertise incroyable. Le Canadien avait besoin d'un gars comme ça, là.
Ah, clairement. J'ai parlé avec beaucoup de monde au cours des derniers jours à la suite de l'élimination du Canadien et du point de presse de Jeff Molson et de Marc Bergevin. Et partout, les commentaires à l'endroit de Joël Bouchard sont éloquents. Et ça donne une fort curieuse situation. Jérémy, sérieusement, je ne me souviens pas d'avoir entendu ça. C'est que quand tu parles de Joël Bouchard avec avec des gens qui sont bien branchés dans le milieu du hockey, certains te disent que ce gars-là peut devenir directeur adjoint ou adjoint au directeur général. D'autres te disent qu'il peut être directeur du recrutement. D'autres te disent qu'il pourrait tout mener l'ensemble des opérations avec le Rocket de Laval, c'est-à-dire président de l'équipe, directeur général, entraîneur. D'autres disent qu'il pourrait être entraîneur adjoint avec le Canadien. Et c'est rare que tu entends à propos d'une seule et même personne autant de postes qui sont mentionnés. Alors, tu sais, généralement, quand on parle d'un nom dans l'hockey, on va dire, ben lui, il pourrait être entraîneur, lui, il pourrait être directeur général, lui, il pourrait être recruteur. Des fois, c'est deux postes, mais l'ensemble des postes, sérieusement, j'ai beau chercher, je me souviens pas vraiment d'avoir entendu ça. Et ça, ce sont les commentaires qu'en discutant avec les gens. Alors, ça donne un peu l'exemple de l'étendue, de l'éventail de possibilités pour ce gars-là qui pourrait jouer un rôle utile à bien des niveaux chez le Canadien.
Tu vois, moi, ça me surprend pas parce que si on regarde ce qu'il a fait avec Équipe Canada Junior, son implication avec Hockey Canada, on le nommait comme membre du groupe de gestion. Écoute, c'est large là, comme rôle, mais ce gars-là, pendant le match, il y a l'oreillette, parle à l'assistant entraîneur sur le banc, fait des ajustements, communique directement avec Dominique Ducharme. Tu sais, c'est un monsieur hands-on, là. Tu sais, il touche à tout, là. C'est un gars qui est impliqué, mais à 100% dans ce qu'il fait, là.
Exactement, et c'est un gars aussi qui est impliqué au point de vue administratif avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Il y a eu de l'implication dans la construction de l'amphithéâtre là-bas. Donc, c'est un gars qui est multidisciplinaire et c'est en plein le genre d'homme qui, je pense, devrait intéresser très rapidement le Canadien. Parce que là tu sais, on a beau dire, on peut parler de tous les changements qui peuvent survenir dans le vestiaire au niveau des joueurs, puis bon, est-ce qu'on échangera Pacioretty, qu'est-ce qui va arriver avec Price, Tavares va-t-il venir à Montréal? Tout ça, c'est super intéressant. Puis moi aussi, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Mais avant tout ça, il faut des gens pour prendre ces décisions-là. Il faut des gens pour vraiment donner l'orientation. pression. Et là, je pense que le Canadien, et Marc Bergevin spécialement, a besoin d'aide. On le voit, là, autour de lui, ça ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Les décisions qui ont été prises dans la plupart des cas au cours de la dernière année n'ont pas été remplies de succès. Puis même, on peut retourner plus loin que ça en arrière. Moi, je regarde simplement cette difficulté à reconnaître les problèmes offensifs du Canadien et à essayer de les solutionner. Ça dure depuis la saison, depuis les éliminatoires de 2015. C'est un problème récurrent chez le Canadien et puis on n'a jamais vraiment trouvé de solution à ça. Alors, il faut améliorer à tous les niveaux et il faut des idées neuves. Je pense pas que Marc Bergevin peut continuer avec le même entourage. Puis, il peut pas, notamment pour une raison, c'est que Jeff Molson l'a mis au défi de changer. Oui. Il a dit, écoute, le statu quo, c'est inadmissible. Et moi, j'ai parlé avec Jeff Molson cette semaine, puis quand je lui ai demandé qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Est-ce que vous voulez dire qu'il faut qu'il y ait des changements dans son personnel, des changements dans les façons de faire? Puis sa réponse, c'est les deux, là. Il veut du changement, Jeff Molson. Il veut pas que ça continue comme ça a été au cours des derniers mois. Alors, donc, quand tu regardes ça, tu dis, qui peut venir aider le Canadien? Qui est au courant des problèmes? Qui comprend bien ce que signifie le Canadien dans la communauté, qui est extrêmement bien branché dans le hockey junior, qui est extrêmement bien branché maintenant au niveau du hockey canadien, c'est Joël Bouchard, c'est certainement un candidat de premier rang.
C'est une belle mise à jour qu'on pourrait ajouter au Canadien de Montréal. Par contre, Philippe, présentement, Joël Bouchard est entraîneur, directeur général, président, propriétaire de l'Armada de Blainville, Boisbriand. Est-ce que ce gars-là va laisser de côté la business qui est là pour s'en aller ailleurs dans un rôle de développement?
Ça, c'est ce qui la décision lui appartiendra si un jour il a une offre, bien sûr, mais je pense que tout dépend de l'offre qu'on lui ferait éventuellement et du degré de latitude qu'on lui donnerait. Un gars comme lui, là, qui est habitué à en emmener très large dans une organisation, il peut pas arriver chez le Canadien pour simplement prendre ses ordres de mission directement du directeur général puis pas avoir son mot à dire de façon très, très claire. Alors donc, j'ai l'impression que je dirais la description de tâche, même pas la description de tâche, c'est plus au niveau de l'influence réelle qu'il pourrait exercer. Quelle serait-elle? Est-ce qu'on lui donnerait de la latitude? Et pour ça, pour que ça soit le cas, il faudrait que Bergevin ait vraiment le goût de s'entourer de Joël Bouchard, qu'il ait vraiment le goût de travailler avec lui. Maintenant, et s'il le fait parce qu'il sent qu'il faut qu'il y ait du sang neuf, parce que son patron le demande, parce que les fans le demandent, puis parce que les analystes le répètent aussi, si c'est pour ces raisons-là qu'il le fait, ce ne seraient pas les meilleures raisons. Il faut vraiment qu'il choisisse quelqu'un dont il est convaincu que l'expertise va aider le Canadien puis qu'il ait le goût de travailler avec cette personne-là. Et ça sera Joël Bouchard. Si un jour, encore une fois, n'oublions pas le si, s'il y a une approche du Canadien, de vérifier ça dans les conversations qu'il aurait avec les représentants du Canadien qui lui parleront. Mais tu sais, tu prends un gars comme Joël Bouchard, là, regardez ça à quel point ça change une dynamique. Et ça, moi, je trouve que c'est assez fondamental chez le Canadien. C'est qu'à l'heure actuelle, tu as Marc Bergevin qui est le grand responsable du secteur hockey. Et Marc Bergevin, à mon avis, a commis une erreur. Et je sais que c'est difficile de préparer sa relève, sa propre relève, surtout quand on est jeune comme lui. Mais à quelque part, le rôle d'un haut gestionnaire, c'est ça, c'est de préparer sa relève. Et là avec Bergevin à l'heure actuelle, il n'y a personne dans sa garde rapprochée que tu peux considérer comme la relève. C'est certainement pas Rick Dudley ou Larry Carrière ou Scott Mellanby ou même Trevor Timmons, là, qui pourrait un jour prétendre au poste de directeur général du Canadien. Alors donc, il n'y a personne. Il est entouré d'une équipe. Et dans cette équipe-là, il n'y a personne qui pourrait le remplacer à pied levé. Alors que si un gars comme Joël Bouchard arrive dans l'organisation, Jérémy, on s'entend que la donne vient de changer. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui deviendrait éventuellement directeur général. Il y a encore beaucoup à apprendre, c'est sûr, au niveau de la Ligue nationale. Mais il aurait éventuellement le profil dans un an, dans deux ans, dans en tout cas, peu importe la durée qu'il faudrait. Mais il aurait le profil pour être directeur général d'une équipe. Quand tu as été président, directeur général et entraîneur-chef d'une équipe de hockey junior majeur, que tu as du succès après, année après année avec cette équipe de hockey junior-là, que tu es reconnu par Hockey Canada, qui te nomme directeur général de l'équipe junior canadienne, qui est une des équipes nationales les plus importantes, deux années consécutives, que tu gagnes l'argent la première année, l'or la deuxième, c'est que tes compétences ne font pas de doute, là. Alors donc, il aurait ce profil-là. Mais là, est-ce que le Canadien est-ce que Bergevin, lui, serait capable de travailler avec un gars qui avec un palmarès comme celui-là? C'est une question aussi, ça a posé.
Mais écoute, la plus grande qualité de Joël Bouchard, c'est d'être terre à terre. Et ça, ça ferait grand bien, je pense, à l'organisation du Canadien, oui, d'avoir quelqu'un qui a les deux pieds solides sur la terre. OK. Ce soir, les Leafs vont affronter les Bruins de Boston sans le joyeux coco Nazem Kadri, oui, qui lui a été suspendu 3 matchs. Sincèrement, c'est un des gestes les plus cheap que j'ai vu de mes yeux, là, au hockey. Disons que Cook sur Marc Savard, ça en était un papier cheap. Ça, Nazem Kadri, écoute, c'est parce qu'on est en série de fin de saison, parce qu'en saison régulière, d'après moi, ce gars-là avait au moins un 5 ou un 10 matchs de suspension. C'est impensé, c'est impensable ce que ce gars-là a fait ça.
Tout à fait d'accord avec toi. Puis, écoute, moi, je trouve souvent que les suspensions devraient être plus élevées. Mais au moins, là, compte tenu du contexte des séries éliminatoires, la Ligue a frappé quand même assez fort avec 3 matchs de suspension. Quand tu perds, quand il y a déjà un match de disputé dans une série 4-7, puis tu as 3 matchs de suspension, c'est tout de même plus significatif que ce à quoi nous sommes habitués malheureusement trop souvent la Ligue nationale dans le passé. Alors là, ça met tout un défi pour les Maple Leafs, par exemple, parce que c'est une jeune équipe. Les Bruins ont également de jeunes joueurs, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis je comprends que les Leafs sont allés chercher un gars comme Patrick Marleau qui apporte de l'expérience et tout, mais il en reste pas moins que le grand leader de cette équipe-là, c'est Austin Matthews, qui est très jeune. Les joueurs les plus explosifs en attaque qui peuvent faire gagner les Maple Leafs sont très jeunes aussi. Alors là, tu te retrouves dans une situation très difficile où tu perds un élément important en Kadri. Tu es en déficit d'un match à zéro. Et là, tu te retrouves pour le match numéro 2. Tu n'as pas si bien paru que ça dans la première rencontre non plus. Ça a été un lent départ. Alors, gros test pour les Maple Leafs ce soir. Je comprends qu'ils sont sur la route, même s'ils reviennent en déficit de 0-2. C'est pas la fin du monde. Il y aura 2 matchs à Toronto après. Mais si tu veux vraiment t'imposer au début des séries puis annoncer tes couleurs, faut que tu sois capable de jouer un gros match. Et je pense que ce soir, c'est encore plus important compte tenu des circonstances pour les Maple Leafs.
Et peut-être juste une mise à jour, là. Je vous rappelle que l'Avalanche allait devant 1-0 sur les Prédateurs de Nashville après une période de jeu. Et les Devils et le Lightning, c'est l'égalité 1-1. Les Prédateurs et le Lightning de Tampa Bay, on est devant 1-0 dans leur série. Maintenant, Philippe, parlons de l'Impact. Défaite de 3-1 face au Red Bull de New York. Une défaite où on a vu les joueurs de l'Impact manquer de concentration, créer beaucoup de revirements. Deuxième demi qui était atroce du côté de l'Impact. J'ai pas l'impression qu'on accumule les bonnes performances récemment. Là.
Non, j'ai écouté tout le match à TVA aujourd'hui et franchement, j'ai été très déçu du rendement de l'Impact en deuxième demi notamment, où ils ont pratiquement pas touché au ballon. Ils n'ont pas créé d'occasion de marquer non plus. En première demi, c'était pas si mal. Puis bon, ils donnent un but sur, justement, tu t'en as parlé, une erreur bête de Cabrera, je pense, qui fait de mauvaise passe. Puis bon, le ballon se retrouve dans le fond du filet de l'Impact. 1-0 dès le début. Ça arrive à la 4e ou 5e minute de jeu. Et là, l'Impact quand même se bat puis réussit à égaler la marque avant la fin de la demi. En fait, bien avant la fin de la demi. C'est 1-1. Les espoirs sont encore permis. Mais en deuxième demi, je ne sais pas ce qui est arrivé. Cette équipe-là est arrivée complètement à plat sur le terrain. Elle a été vraiment dominée de toutes les façons. Et tu sais, ça s'est terminé 3-1. Puis ça a pris quand même assez de temps avant que les Red Bulls marquent leur deuxième et finalement leur troisième but. Mais c'est grâce à Evan Bush qui a fait de très beaux arrêts devant le filet de l'Impact parce que l'équipe a été complètement dominée. Et ça, je trouve que c'est la première fois de la saison que je te dirais que je trouve ça inquiétant. Les deux premiers matchs, tu pouvais dire il faut qu'ils réussissent à faire une certaine unité dans le groupe. Ils ne se sont pas entraînés beaucoup ensemble, beaucoup de nouveaux joueurs. Ils avaient subi 2 défaites. Et puis là, après ça, ils sont venus avec 2 victoires. Mais là, ça va être une autre défaite. Et surtout la façon, la manière. J'ai trouvé qu'il y avait un manque d'énergie au jeu. Et franchement, j'écoutais ça aujourd'hui, je suis comme, écoute, mais c'est quoi là? Pourquoi c'est comme ça? Comment se fait-il que cette équipe-là bataille pas plus que ça? Et moi, j'ai trouvé que la deuxième demi, là, c'était vraiment assez pitoyable de la part de l'Impact aujourd'hui.
Et dis-toi que la semaine prochaine, c'est Laurent Simon et le LAFC qui s'amène à domicile. Ouais. Il va falloir être prêt du côté de l'Impact. C'est beau être un match local, le premier de la saison au Stade Saputo, mais ça va prendre plus que ça pour battre cette formation-là qui connaît du succès quand même.
Oui, tout à fait. Puis ça va être un bon test. Bien, c'est toujours plus facile de jouer à domicile. Mais souhaitons que, j'ignore où on en est dans les chiffres de l'assistance, mais souhaitons que le stade soit plein. Parce que je ne sais pas si tu as vu les images aujourd'hui en direct du stade des Red Bulls.
Il y avait de la place encore.
Et là. Quand ça a commencé, c'était au tout début du match. Les sièges vides, c'était incroyable. Ça s'est rempli un petit peu, là. Mais encore une fois, on voit que Major League Soccer a a beaucoup de travail encore à faire dans plusieurs marchés pour remplir les stades.
Mais on avait fait quand même.
Ça marche bien, mais à d'autres endroits, c'est plus
difficile. On avait fait quand même une sale combe cette semaine avec la Ligue des champions de la CONCACAF le Red Bull de New York. Donc, deux matchs rapprochés.
C'est peut-être beaucoup. Mais on le voit aussi, on le voit dans le baseball aussi, qu'en début de saison aussi, c'est très difficile. Il y a la température qui s'est mise de la partie qui est vraiment pas belle là, dans le nord-est des États-Unis. Mais tu as vu des matchs au baseball majeur. J'ai vu, Jérémy, une image tirée d'un match disputé, je pense que c'était lundi après-midi, le stade des White Sox de Chicago, un match en après-midi, en première manche. Écoute, je me demande s'il y avait 200 personnes dans les gradins.
C'est fou,
peut-être qu'il y a eu un petit peu plus par la suite, puis le nombre de billets vendus est évidemment plus élevé que ça. Mais c'est un problème. Les assistances sont très basses en Floride, on le sait, 6000 personnes là, dans les dernières rencontres. À Tampa Bay, ça ne fonctionne pas très bien. Alors, tu sais, on parle souvent que dans le hockey, il y a des problèmes dans certains marchés au niveau des assistances, en soccer aussi. Mais au baseball, en ce début de saison, c'est difficile. Puis, tu sais, dans des villes comme Tampa Bay puis comme Miami, là, c'est pas parce que les gens ne viennent pas voir le match puis que les billets sont vendus. Là, ils n'ont pas tant de billets vendus que ça en partant. C'est assez problématique, je pense, pour ces équipes-là.
Bien, Philippe, je te remercie énormément pour ton temps ce samedi. Nous, on se reparle demain matin à Week-end
Extra.
Fait.
Excellent, Jérémy.
Toujours un grand plaisir. Je te remercie beaucoup d'avoir
été avec nous. Et vice-versa. Hey, merci beaucoup.
Merci.
Salut, bonne journée.
Philippe Quentin qui nous parlait, entre autres, de peut-être voir Joël Bouchard dans l'organisation du Canadien de Montréal. Voilà une question intéressante qu'on posera à notre prochain invité, Stéphane Leroux, qui est avec nous au retour. Oui, on va parler des séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais est-ce qu'il voit lui, Joël Bouchard, faire le saut avec le Canadien? Restez là.